ensemble les textes qu'il va aborder aujourd'hui. Je vous invite déjà à prendre vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 2. Je vous laisse chercher Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit.
Maintenant, on va naviguer dans Hébreux. Donc Hébreux chapitre 10, on va lire les versets 24-25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont eu l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et j'ai oublié le verset 24, donc je vais recommencer. Je reprends, donc Hébreux 10, versets 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Est-ce qu'un frère ou une sœur veut bien prier pour notre pasteur qui va prendre la parole ? Je vous laisse la place.
Non, moyen. La semaine dernière, nous avons entamé une série de prédications sur le thème de la vie de disciple. Par son union avec Christ, le chrétien est une nouvelle créature. Il a reçu un nouveau cœur qui aime Dieu, alors qu'auparavant, il lui était hostile. Il est désormais engagé dans une nouvelle vie, prêt à obéir à Dieu en marchant par le Saint-Esprit. Et jusque-là, nous avons porté notre attention sur le croyant en tant qu'individu. Et ce matin, je vous propose de nous intéresser au groupe, à la communauté qu'est l'Église. Je vous montre cette image et j'aimerais bien entendre quelques réactions de votre part. Je vais essayer de la commenter en même temps. Alors, je vais... Voilà l'image en question. Donc, s'il fallait illustrer cette affirmation par une image, je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin de l'Église. J'écoute vos réactions. Que pensez-vous de cette image ? Est-ce qu'elle reflète une certaine réalité ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'au contraire, non, pas du tout ? On est exposé au danger. Donc, le chrétien qui dit « je suis chrétien et je n'ai pas besoin de l'Église » est exposé au danger. Autre réaction. Oui, celui qui est tout seul, il a un peu plus peur que les autres, apparemment, oui. Oui, alors sans doute que là, il est en train de faiblir après une course-poursuite. Et les autres, en plus, ne bougent pas forcément pour l'aider. Bon, en même temps, face à une lionne, je ne sais pas s'il y a beaucoup de zèbres courageux. Il est seul, oui. Malheureusement, bien des personnes qui ont mis leur foi en Jésus estiment ne pas avoir besoin de l'Église, d'une Église locale. Vous en connaissez peut-être. Certaines, déçues, voire blessées par leurs expériences avec l'Église, ne veulent plus côtoyer d'autres croyants. D'autres, par orgueil, estiment qu'elles avanceraient bien plus vite seules plutôt que mal accompagnées. Et d'autres encore préfèrent suivre un culte en ligne et ainsi éviter de devoir parler avec d'autres, prendre de leurs nouvelles, répondre à leurs questions. Et il existe bien d'autres raisons que je ne mentionne pas ici. Mais quand nous lisons en particulier le Nouveau Testament, force est de constater que la volonté de Dieu est que tous ceux et celles qui suivent Jésus vivent ensemble et s'aiment les uns les autres. Si ce n'était pas le cas, pourquoi la majeure partie du Nouveau Testament sont des lettres adressées aux chrétiens, réunis en Église? À moins qu'un chrétien soit totalement isolé, ce qui est possible encore dans notre contexte actuel, et sans contact avec d'autres, aucun chrétien ne devrait donc rester sans Église. Sinon, vous imaginez ce qui finit par arriver au zèbre qui s'est écarté du troupeau. Les deux textes que nous avons lus nous disent ce matin de la part de Dieu que l'Église est avant tout son idée et non l'idée des hommes. C'est précisément au milieu de son peuple que Dieu a décidé de demeurer. Et c'est au sein de cette communauté qu'il a constituée lui-même qu'il nous commande de veiller les uns sur les autres. Ainsi, s'éloigner de la communauté croyante, c'est courir le risque de s'éloigner de Dieu. Et je crois que certains d'entre nous connaissent également des personnes qui sont malheureusement dans ce cas. Alors voyons ensemble ce que Dieu dit de l'Église. Vous comprenez bien que lorsque je parle d'Église ce matin, je ne fais pas allusion au lieu où nous nous rassemblons ou au local dans lequel nous nous trouvons, mais bien aux croyants qui se rassemblent. C'est d'ailleurs ainsi que l'apôtre Paul voit l'Église. Depuis la prison où il se trouve, Paul écrit cette lettre à l'Église d'Éphèse. Et c'était peut-être une lettre qui devait être lue par plusieurs autres communautés. Et dans notre texte, que nous avons lu tout à l'heure, quand Paul utilise le pronom « vous », il pense à des chrétiens qui n'ont pas d'origine juive. Pourtant, comme les chrétiens d'origine juive, Dieu les a choisis avant la fondation du monde. C'est ce que nous lisons dès le chapitre 1. Comme ces chrétiens d'origine juive, les non-juifs ont été pardonnés, ont reçu le Saint-Esprit, qui est le gage de leur salut à venir. Et au chapitre 2, Paul enseigne à propos de la grâce de Dieu. Il rappelle à ses destinataires combien Dieu a été bon envers eux. Ils étaient morts spirituellement à cause de leur faute, incapables de se soumettre à Dieu. Et pourtant, dans sa grâce, Dieu les a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce qu'ils sont sauvés. Sauvés pour une vie nouvelle, riche en bonnes œuvres. Et nous lisons encore au verset 12 et 13 de ce chapitre 2. Souvenez-vous, Paul s'adresse aux Éphésiens, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Il faut vraiment considérer notre situation à nous en tant que non-juifs. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais si aujourd'hui nous croyons, c'est parce que de loin que nous étions, Christ, par son œuvre, nous a rapprochés. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de vous sentir exclu d'un groupe. J'ai déjà vécu cela. Mais tout change dès lors qu'une personne de ce groupe vient vous tendre la main, vous accueillir, vous poser des questions et vous rapproche ainsi du groupe en question. Une seule personne peut suffire pour passer de l'exclusion à l'intégration. D'une manière bien plus belle, Jésus, en donnant sa vie pour nous, a ouvert la voie de la réconciliation pour que nous puissions rejoindre son peuple. Il a été cette personne qui est venue tendre la main pour nous intégrer à ce groupe qu'est l'Église. Si autrefois nous étions exclus et c'était le cas, grâce à Jésus-Christ, nous faisons maintenant partie du peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul n'hésite pas à l'affirmer aux Éphésiens, et c'est là que nous en venons à notre texte en question. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Par rapport au peuple de Dieu, les chrétiens non-juifs, et cela nous concerne, ne sont plus des étrangers, ne sont plus des gens de passage. Ils ont été accueillis par Dieu, ils font partie de ce nouveau peuple constitué de juifs et de non-juifs. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction entre les peuples. Jésus est mort pour les péchés des êtres humains, qu'ils soient d'origine juive ou non. Et les non-juifs ont ainsi obtenu un immense privilège. Peut-être qu'à cette époque, certains n'étaient même pas citoyens de l'Empire romain. Mais qu'importe, maintenant ils sont, avec d'autres, citoyens du royaume de Dieu, ce qui est beaucoup mieux. Et peut-être que cette image de la citoyenneté nous échappe un petit peu quand nous sommes nés en France et de nationalité française. Mais je me permets de prendre l'exemple de notre sœur dont vous connaissez la situation, qui est en train d'attendre son titre de séjour, le renouvellement de son titre de séjour. Tant qu'elle n'a pas ce titre renouvelé, elle ne peut pas travailler ici en France. Elle est exclue de ce droit. Mais dès lors que sa situation administrative sera régularisée, elle aura part au droit de travailler en France. Le fait d'être aujourd'hui citoyen du royaume de Dieu doit nous rappeler que nous n'avons pas toujours eu ce statut. Qu'il s'agit d'un privilège que Dieu nous a librement accordé. Et un autre signe d'appartenance qui est très forte, et tout à l'heure, Laura et Stéphane nous ont introduit dans ce thème, en Christ, les Éphésiens sont membres de la famille de Dieu, ou de la maison de Dieu. De loin qu'ils étaient, Dieu les a accueillis dans sa famille. Dieu le Père nous a accueillis, adoptés dans sa famille. Nous lisons un peu plus tôt dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » Avant même notre naissance et un seul des jours de notre vie sur cette terre, Dieu avait prévu de nous adopter pour faire partie de sa famille. Si nous sommes en Christ, ce privilège est le nôtre. Jean Calvin, le réformateur du XVIe siècle, parle quant à lui d'un grand honneur. C'est un grand honneur d'avoir Dieu pour Père. C'est un grand honneur d'avoir Jésus pour frère. Et d'avoir une multitude de frères et sœurs auxquels nous sommes liés maintenant. C'est un grand honneur. D'où l'importance que le chrétien ne vive pas sa foi seul dans son coin, mais vive cette dimension communautaire voulue par Dieu. Et l'apôtre Paul poursuit au chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Paul utilise ici la métaphore de la construction. J'ai avec moi une petite maison. Alors, elle est ce qu'elle est, hein. Vous la trouvez jolie ou pas? Oui, quand même. L'Église ne peut avoir d'autre fondement que celui des apôtres. Donc le fondement se situe à ce niveau-là. Que celui des apôtres qui ont été les porte-paroles mandatées du Seigneur. Ce sont eux qui ont annoncé les premiers l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est par leurs paroles, transcrites dans tout le Nouveau Testament, c'est par leurs paroles que nous avons cru. Et dans cette construction, Jésus est désigné comme la pierre angulaire. Alors, je ne peux pas retirer ici la pierre angulaire en question, mais la pierre angulaire se situe quelque part par là. Cette pierre qui est tellement indispensable que si vous la retirez, l'édifice s'effondre. Jésus-Christ est la pierre angulaire qui permet à la maison de tenir debout. Et c'est tellement important qu'on ait comme pierre angulaire, Jésus-Christ. Si l'Église n'est pas construite, si lorsque nous nous réunissons, Jésus n'a pas sa place, si nous ignorons complètement ce que Jésus nous enseigne, eh bien, la maison s'écroule. Elle n'a aucune valeur. Mais Jésus est la pierre angulaire qui permet à cette maison d'être ce qu'elle est. Et vous l'avez trouvée belle. Donc, Jésus, la pierre angulaire, indispensable pour que l'Église puisse s'élever, grandir, poser solidement sur cette pierre angulaire. Et c'est pour ça que Jésus est mentionné encore dans la suite du texte. C'est en lui, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous les non-juifs, vous êtes édifiés avec eux, ceux d'origine juive, pour former une habitation de Dieu en esprit. L'image de la construction sert également à indiquer la fonction de l'Église, être un temple saint dans le Seigneur. Être une habitation de Dieu en esprit, une habitation comme cette maison. Ces deux expressions nous rappellent que lorsque l'Église se rassemble, c'est pour adorer Dieu. C'est pour ça que nous parlons de temple. C'est pour cela que nous parlons de l'habitation de Dieu en esprit. Nous ne pouvons imaginer un seul instant une église sans qu'il y ait de culte. En outre, ces expressions nous rappellent que c'est là, au cœur du rassemblement même des chrétiens, que Dieu est présent par son esprit. La communauté des croyants est le nouveau temple choisi par Dieu pour établir sa présence. Autrefois, il y avait le tabernacle, si vous connaissez l'histoire d'Israël. Il y avait le tabernacle. Puis, lorsque le peuple s'est établi dans le pays promis, eh bien, il y a eu le temple que Salomon a construit, a fait construire. Ensuite, ce temple a été détruit, reconstruit et encore détruit. Mais maintenant, Jésus qui a œuvré pour la réconciliation avec Dieu et entre les hommes, nous a réunis pour former ce nouveau temple. Quand nous nous rassemblons, Dieu est au milieu de nous, Dieu est avec son peuple, son esprit atteste sa présence. Et peut-être que ce matin, vous êtes venu avec l'idée que ce sera un dimanche comme un autre. Mais chaque fois que nous nous rassemblons, que nous chantons les louanges de notre Dieu, que nous écoutons ensemble sa parole, que nous lui adressons nos prières, Dieu nous fait l'honneur d'être présent. C'est cela dont nous prenons conscience lorsque nous venons le dimanche ici et que nous nous rassemblons. Dieu nous fait l'honneur d'être là au milieu de nous. Vous aimeriez sans doute, si cela était possible, être à la même table qu'une personnalité que vous admirez. Vous aimeriez sans doute lui parler et l'écouter. Mais là, nous parlons du Dieu de l'univers. Là, nous parlons du Dieu qui s'est donné à nous. Alors non, lorsque l'Église se rassemble pour Dieu, ce n'est pas un dimanche ordinaire. En tant que croyants, nous formons un temple où il habite. Par ce texte, nous comprenons que l'Église est non seulement la famille de Dieu, mais en fait bien plus que cela, elle est aussi un temple que nous formons quand nous sommes ensemble. Et s'il est vrai que nous sommes ensemble, que nous tissons des relations les uns avec les autres, qu'est-ce que Dieu attend de son Église? Qu'est-ce que le disciple de Jésus doit vivre concrètement avec ses frères et sœurs? Je vous propose que nous puissions justement en venir là, ce que Dieu attend de l'Église. Alors évidemment, j'avais l'embarras du choix parmi tous les textes qui nous exhortent à nous aimer les uns les autres. Et peut-être qu'au cours de cette année, Dieu voulant, eh bien, nous reviendrons sur ces exhortations qui appellent à la réciprocité. Mais je vous propose pour aujourd'hui de nous concentrer, de considérer ces deux versets que nous avons lus de l'Épître aux Hébreux. Et je les relis. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je vous l'accorde, la référence à la famille n'est pas explicite dans ces versets, Mais il me semble que ce que Dieu demande à son Église, eh bien, s'apparente à ce que nous sommes appelés à vivre en tant que frères et sœurs. C'est lorsque nous sommes animés d'amour fraternel que nous nous soucions vraiment des autres. Pensez une nouvelle fois à l'image du début que je vous ai montrée. Le zèbre séparé du troupeau qui court un sérieux danger. Et à cette époque, à l'époque où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, celles et ceux qui avaient pris l'habitude de ne plus retrouver les autres croyants étaient comparables à ce zèbre. D'où l'encouragement de l'auteur à ne pas abandonner son assemblée. Et précisons que, à l'époque, nous étions dans un contexte où les chrétiens subissaient des pressions et connaissaient la persécution. Nous lisons un peu plus loin, quelques versets plus loin. « Souvenez-vous des premiers jours », l'auteur dit cela aux Hébreux. « Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. » Voilà la situation de ces chrétiens à qui on arrachait même leurs biens. Et il se peut donc que, sous cette pression-là, certains aient fini par abandonner leur assemblée. Mais dans nos versets 24 et 25, le verbe principal n'est pas le verbe abandonner. Le verbe principal, l'accent est mis sur le verbe veiller. Et si je devais littéralement traduire du grec, voici ce que ça donne. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, en n'abandonnant pas notre assemblée, mais en nous encourageant. Donc, le verbe principal de notre texte, c'est le fait de veiller les uns sur les autres. Les deux autres verbes sont des participes. De quelle manière? En n'abandonnant pas notre assemblée et en nous encourageant. Veiller sur l'autre, cela signifie faire attention à l'autre. Avoir une vigilance particulière vis-à-vis de l'autre. Comme le troupeau de zèbres aurait dû être beaucoup plus vigilant vis-à-vis de celui qui s'est égaré. Comment celui ou celle qui abandonne son Église peut-il encore veiller sur les autres? Et comment peut-il encore bénéficier de leur encouragement fraternel? Dans un contexte où il était tentant de faire marche arrière, il fallait au contraire se soutenir, s'encourager à persévérer dans la foi et dans l'espérance. Une foi qui s'exprime de manière concrète par l'amour et les bonnes œuvres. Et à l'époque, comme aujourd'hui, celles et ceux qui abandonnent leur communauté se rendent eux-mêmes vulnérables, au point que l'auteur avertit solennellement. Versets 26 et 27. « En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Ici, il faut comprendre par péché volontaire le fait de se détourner de Dieu, d'abandonner la foi. Si aujourd'hui notre contexte en France est différent de celui de l'époque, le monde qui nous entoure est suffisamment distrayant et offre assez d'opportunités pour que nous cessions de considérer nos frères et sœurs. Malheureusement, nous le constatons à notre époque, influencés par la mentalité d'une société de consommation, nous allons parfois à l'église comme on irait au supermarché. Nous prenons ce qui nous intéresse, et si le programme des activités qui est proposé ne nous correspond pas, nous allons voir ailleurs. Or, jamais dans l'Écriture, l'église n'est décrite comme un lieu de consommation. D'ailleurs, l'église n'est pas un lieu. Comme nous l'avons vu avec l'apôtre Paul, c'est une communauté. C'est la famille du Dieu vivant. Dans cette famille, nous recevons des encouragements. Nous recevons un enseignement qui nous incite à l'amour et aux belles œuvres. C'est en tout cas ce que nous voulons vivre ici, et je l'espère. C'est ce que nous voulons vivre ici, n'est-ce pas? Dans cette famille, retenons ceci. Nous avons un devoir. Celui de veiller sur nos frères et sœurs, en les encourageant à tenir ferme dans la foi. Et à coup sûr, en allant dans ce sens-là, nous allons à l'encontre d'une mentalité de consommation. Notre devoir est de veiller les uns sur les autres. L'auteur de la lettre ajoute une motivation à tout cela. Faites cela, verset 25, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ici, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, les auteurs bibliques n'envisagent pas d'autre horizon proche que le jour où Jésus reviendra. Dans l'histoire du salut, c'est la prochaine étape. C'est le prochain événement majeur. Et la perspective de ce jour où Jésus rendra son jugement et où il sauvera les siens influence nécessairement le comportement présent. Si Jésus doit prochainement revenir et juger toute l'humanité, c'est maintenant que je dois veiller sur les autres et sur moi-même. Il ne s'agit pas de repousser à plus tard, parce que plus tard peut signifier trop tard. Pour celui ou celle qui sera resté loin de la foi, qui aura tourné le dos à l'Église et à Dieu, il sera trop tard quand Christ rendra son jugement. Puisque ce jour approche, alors veillons les uns sur les autres. Faisons attention les uns aux autres. Encourageons-nous, alors que le péché nous enveloppe si facilement, encourageons-nous à vivre une vie conforme à notre nouvelle identité, que l'auteur récapitule par l'amour et les belles œuvres. Oui, ce qui est attendu à juste titre d'un chrétien qui a reçu un nouveau cœur, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est qu'il aime son prochain et qu'il fasse le bien selon Dieu. Très concrètement, si un frère ou une sœur vous partage ce qu'il est en train de vivre, des difficultés au travail, peut-être des défis à la maison ou des conflits non réglés, comment allez-vous l'encourager ? Comment allez-vous l'encourager à continuer à agir en tant que chrétien ? Notre but n'est pas d'être moralisateur. Alors comment faire ? Eh bien d'abord, nous devons rappeler l'Évangile. Nous devons rappeler l'Évangile qui parle de l'amour du Seigneur à notre égard. Nous devons rappeler ce que Christ a accompli à Golgotha, son calvaire sur la croix. Nous devons rappeler que c'est à cause de nos fautes qu'il a été cloué sur le bois, qu'il s'est offert en sacrifice pour détourner de nous la colère de Dieu, pour que Dieu nous soit favorable, pour qu'il pardonne le mal que nous avons commis. Nous devons d'abord rappeler l'Évangile, ce que Dieu a fait pour nous. Et ce n'est que lorsque nous avons rappelé cet amour extraordinaire et cette grâce imméritée que nous pouvons inciter notre frère et notre sœur à l'amour. Oui, tu peux aimer ce camarade de classe ou ce collègue qui t'insupporte parce que le Seigneur t'a aimé, bien que tu sois pécheur. Oui, tu peux te réconcilier avec ce membre de ta famille parce que toi-même, tu as connu ce que signifie être réconcilié avec Dieu, parce que Dieu t'a véritablement pardonné. Oui, tu peux être patient avec tes enfants ou avec tes parents en te souvenant combien Dieu a été patient avec toi durant toutes ces années de ta vie. Voilà par exemple dans quel sens nous pouvons encourager. Notre motivation n'est pas de faire le bien parce que c'est bien, mais parce que cela découle de l'Évangile. Dieu a premièrement été bon avec nous. Il nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi à notre tour nous aimons également et nous œuvrons de manière bienfaisante. Donc je récapitule encore. Dans notre encouragement à l'égard de notre frère et de notre sœur en Christ, rappelons d'abord l'Évangile, ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous, avant de rappeler ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Rappelons d'abord l'Évangile, ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous, avant de rappeler ce que nous devons faire en tant que chrétiens. J'ajouterai une dernière chose, si vous êtes toujours avec moi. Je ne peux que nous encourager en cette année 2025 à saisir toutes les occasions pour prier les uns avec les autres. Combien j'ai été moi-même encouragé quand un frère ou une sœur a pris la peine de prier pour moi et avec moi par rapport aux défis qui se présentaient à moi. Il me semble que veiller les uns sur les autres, cela passe aussi par la prière. En semaine, si vous pensez à l'un d'entre nous, prenez le temps de prier pour lui ou pour elle et faites-lui savoir. Ça pourra l'encourager. Mieux, appelez-le, appelez-la et priez avec votre frère, votre sœur. Et même sans attendre cette semaine, en toute occasion, après le culte, manifestons notre intérêt pour notre frère, notre sœur en Christ. Et si les mots nous manquent pour l'encourager, nous pouvons au moins, prier avec lui ou avec elle. Veillons les uns sur les autres en 2025, pour qu'aucun d'entre nous ne puisse se retrouver dans la situation du zèbre, seul. Et j'espère sincèrement que personne d'entre nous ne sera dans cette situation d'un zèbre traqué par une lionne. Pour l'apôtre Paul, nous avons vu quel honneur c'était pour nous de faire partie de la famille de Dieu et de le savoir présent lorsque nous nous rassemblons. Par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous avons vu le devoir de tout disciple de Jésus de veiller sur les autres afin qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu, afin qu'il ne soit pas endurci par le péché. Il faut avouer, parce que je veux quand même décrire aussi la réalité, il faut avouer que l'Église échoue bien souvent dans ce domaine et que faute de soutien, certains quittent l'Église. Mais cette année, alors que nous sommes attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit, agissons en membres de la famille de Dieu. Portons une attention pleine d'amour à l'égard de celles et ceux pour qui Christ a donné sa vie. Et faisons-le, d'autant plus que nous voyons s'approcher le retour du Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous saisis et qui nous fait comprendre quelle est ta volonté, en particulier pour notre communauté ici réunie. Merci parce que l'Église est ton idée, ton projet, ta communauté, ta famille. Et quel honneur pour nous de pouvoir en faire partie si nous appartenons à Christ. Et dans ce sens-là, Seigneur, nous te prions que tu nous enseignes encore, par ta parole, à pouvoir porter une attention particulière vis-à-vis de celles et ceux que tu as placés à nos côtés. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être comme cet animal traqué parce que isolé. Mais nous voulons faire partie d'une communauté où nous nous soutenons les uns les autres. Seigneur, si nous manquons d'amour, nous te demandons pardon. Et en même temps, nous te demandons aussi, Seigneur, que tu nous donnes ce qui nous manque, que tu nous accordes d'avoir un cœur suffisamment aimant et large pour accueillir notre frère et notre sœur, peut-être dans la détresse. Oui, accorde-nous, Seigneur, de pouvoir tenir bon durant cette année, parce que nous aurons fait partie d'une communauté qui veille sur nous. Et je te remercie encore, Seigneur, parce que tes paroles sont tellement bienfaisantes. Et tu nous les as donnés pour que nous puissions non seulement bénéficier de toute la bénédiction que ça peut constituer, mais surtout, Seigneur, pour que nous puissions vivre très concrètement l'amour les uns à l'égard des autres. Alors aide-nous, Seigneur, parce que nous savons faibles devant toi, nous savons nos insuffisances, et nous avons besoin, Seigneur, de toute la puissance de ton esprit pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en pratique ce que tu nous as commandé ce matin. Alors que l'Église puisse continuer à pouvoir vivre cela, à pouvoir vivre dans l'amour, à pouvoir que les uns et les autres puissent veiller les uns sur les autres pour ton unique gloire. C'est ainsi que nous te prions, au nom de Jésus. Amen.